une histoire particulière. Revoici notre collection de lieux. Le mois dernier, notre dernier lieu visité était une unité de vie familiale, plus précisément celle de la centrale de Poissy. Nous découvrions un trois pièces ressemblant grandement à un appartement témoin dans lequel peuvent se retrouver des familles ou des couples. Pendant 24 ou 48 heures, ce lieu offre un espace de liberté où émotions et sentiments peuvent continuer à s'exprimer. Aujourd'hui, c'est une autre histoire, l'histoire d'un lieu hors norme. À quelques minutes des Champs-Élysées, on se laisse facilement impressionner par le quartier de Paris-La Défense. Un panorama sur l'architecture des années 60 à nos jours, un musée à ciel ouvert, un temple du shopping et contre toute attente, un quartier vivant qui n'est pas peuplé que de costumes foncés. C'est une gigantesque dalle piétonne, on peut admirer des chefs-d'œuvre, la fontaine monumentale à Gamme, l'araignée rouge de Calder, le pouce de César ou les personnages fantastiques de Miro. Et au milieu, trône une œuvre d'art à elle toute seule, la Grande Arche.
L'Arche de la Défense, épisode 1, La Gloire.
J'aime l'Arche. De tous les projets mitterrandiens, c'est le seul que j'aime sans réserve. Je l'ai toujours aimé.
Laurence Cosset, auteur du roman La Grande Arche.
Je suis parisienne. Je n'ai pas suivi de près à l'époque les étapes de sa construction, mais une fois l'Arche érigée, je l'ai toujours regardée avec bonheur. Et puis, assez longtemps après, deux éléments se sont mis à tourner dans ma tête, un peu comme les éléments d'un moteur. Je savais sur l'architecte deux choses très embryonnaires. La première, c'est qu'il avait gagné le concours international d'architecture de la Tête Défense en 83, contre toute attente, et de ce fait était sorti d'un anonymat complet. Donc la gloire. Et le deuxième élément, non moins simple et non moins fondamental, c'est qu'il était mort peu de temps après, sans jamais avoir vu l'Arche, parce qu'elle n'était pas terminée lorsqu'il est mort. Voilà, la gloire et la mort, une gloire très pure, parce que le concours était parfaitement anonyme. Esprit Kelsen a été couronné pour ses dessins, pour cette vision qu'il avait d'un monument à construire à la Tête Défense. Et la mort violente à un âge encore jeune. Alors, ce que j'ignorais, c'est ce que j'ai découvert en commençant à enquêter, ce qui s'était passé pendant les 4 ans qui séparent ce moment de gloire et cette mort. La réalité est très complexe et j'ai découvert avec effarement qu'elle est de bout en bout tragique. Tant et si bien que certains de ceux qui ont très bien connu Spreckelsen m'ont dit il est mort de son œuvre.
Johann von Spreckelsen, architecte de l'Arche.
À l'automne 1982, l'État français a lancé un concours pour un nouveau monument, un centre international de communication. C'était un beau programme, ça a été annoncé dans tous les médias et de nombreux architectes y ont participé. C'était incroyablement inspirant de travailler à Paris et incroyablement inspirant de travailler sur cette idée d'un centre de la communication. Mais la première fois que je suis venu à Paris, j'ai failli tout abandonner. C'était au début du mois de février, il y avait du vent. C'était un samedi matin ou un dimanche matin, je ne me souviens plus. Il n'y avait pas âme qui vive à la Défense. Ma femme et moi, nous avons marché, absolument seuls, sur cette immense dalle de 300 mètres de long et 100 mètres de large, avec ces énormes tours tout autour, qui ne ressemblent à rien de ce qui existe ailleurs, des tours de 200 mètres de haut. Et puis nous sommes arrivés au bord d'un trou, un trou énorme. Et c'était ça, le site du concours. Et c'était tout sauf inspirant. Il n'y avait rien autour, pas le moindre café, rien. On a fini par trouver un petit snack bar. Nous avons pris un café pour nous réchauffer. Et là, j'ai dessiné sur une serviette en papier un petit cube, comme un petit glaçon. Et je me suis dit, après tout, ça n'a pas d'importance. À cet endroit-là, on peut mettre n'importe quoi.
Nous voilà pile dans l'axe, au milieu de la dalle de la Défense, face à nous, l'Arche. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, toujours ?
Moi, j'aime beaucoup le mot de portique. Si vous voulez. C'est une porte ouverte, c'est une fenêtre, c'est quelque chose qui ne ferme pas la perspective, mais qui l'ouvre et qui appelle à la prolonger, qui appelle à passer de l'autre côté. Elle semble énorme. Et si on commence à scruter le détail, à ce moment-là, on est émerveillé. Par exemple, cet emmarchement, je le trouve d'une perfection très grande. Il me fait penser à un autre emmarchement célèbre qui est les marches du Temple de Jérusalem. On pourrait parler de même des proportions auxquelles Sprengelsen tenait tant, de ce carré, motif omniprésent dans l'arche qui elle-même est un cube, et à vrai dire un hypercube, c'est-à-dire un cube de vide dans un cube de marbre. Et elle est fascinante dans le mouvement. On a intérêt à marcher vers elle pour la voir dans sa beauté très grande.
François Chalin, il y a 30 ans, vous écriviez cet ouvrage, La Grande Arche de la Défense. Pourquoi vous avez été d'abord passionné par cet ouvrage-là, par ce chantier-là ?
D'abord, j'avais une certaine familiarité avec les grands projets de Mitterrandiens, et donc j'avais assez bien connu cette affaire de l'Arche, et ensuite je l'ai suivi avec une certaine affection, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la personnalité de Sprengelsen était très déroutante, il y avait une espèce de noblesse en lui qui était très agréable, et puis parce que j'aimais cette œuvre. Je connaissais bien ce lieu un peu chaotique qu'était la Défense, et j'avais été très préoccupé, comme la plupart des analystes d'architecture, par le destin de la tête Défense. La tête Défense, c'est une... Dans les premières années, quand la Défense a été dessinée, dans les années 50, il ne s'agissait pas d'y construire une tête, ou quoi que ce soit, aucun monument. Il y avait un monument, qui était le palais du Knit, dans lequel on faisait des floralies, des sandloto, des choses comme ça. Et puis des successions de choses qui ressemblaient beaucoup à des barres de HLM au début, dans les premiers plans. Vraiment des barres de HLM. Puis c'est devenu ce qu'on sait, un plan avec des tours... bien équilibré de gauche et de droite, tout culminant à 100 mètres de haut. Et puis, comme la Défense connaissait à la fois des périodes de crise économique et des périodes de bon développement, donc des saccades, des secousses un peu, est arrivé le projet vraiment qu'on appelait Tête Défense. Donc il y a eu pas mal de projets, notamment un extraordinaire projet de l'architecte Xerfus, qui était une quadruple tour un peu hérissée. On a fait appel à Pei, on a fait appel à beaucoup de gens, on a fait appel à un architecte qui était fort célèbre, qui avait fait notamment la Grande Borne, qui s'appelait Émile Ayot, qui était un ami de Pompidou, et qui avait projeté des immeubles qu'on appelait les immeubles miroirs, qui étaient inspirés des fours solaires de Deio, qui étaient des grandes choses qui avaient beaucoup stupéfait dans les années pompidoliennes.
Pour ce qui est de la tête Défense, les années 70, en effet, c'est un moment d'errement, on pourrait dire.
Louise Lenne.
D'errance.
Architecte.
Et donc, en fait, on s'interroge à la fois sur ce qui peut être construit. On se demande à la fois s'il faut construire haut, puisque, donc voilà, ce site étant sur une butte, on le verra depuis les Champs-Élysées. C'est pas un axe quand même peu important dans Paris. Et donc, c'est comme le centre de gravité de cet endroit. En plus, en hauteur, donc véritablement, il y a un point d'orgue à trouver à cet endroit-là, et c'est toujours l'enjeu, et c'est les questionnements des années 70, c'est exactement cela. Ouais.
Nous sommes montés, nous avons gravi les marches de la Grande Arche et nous voilà sous le portique. Et si on se retourne, quelque chose d'essentiel apparaît, c'est la perspective dite axe historique, l'axe sacré.
Alors axe sacré, peut-être pas, perspective admirable certainement, elle a été dessinée par Le Nôtre. Elle relie le Louvre et le château de Saint-Germain. Tout de même, ces grands anciens voyaient grand. Et Dieu merci, elle a été préservée par tous les urbanistes qui ont succédé à Le Nôtre. Elle a été préservée jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a l'Arc de Triomphe, l'avenue de la Grande Armée, la Porte Maillot, l'avenue de Neuilly, sauf erreur, la Seine et la perspective jusqu'ici. Lorsque les Lorsque la Défense a été conçue, les architectes ont ménagé cette vaste perspective en son centre, qui est la structure. Et lorsqu'il s'est agi de construire quelque chose à l'endroit où nous sommes, qu'on appelait la tête Défense, avant que quoi que ce soit n'y fût bâti, on avait plutôt l'idée de fermer la perspective. Si vous regardez les textes de l'époque, il s'agissait de conclure la perspective, de construire quelque chose de très bien qui fasse pendant l'Arc de Triomphe.
La question a toujours été, qu'est-ce qu'on met à cet endroit-là ?
Robert Lyon.
Et il y avait des projets.
Ancien directeur de la Caisse des dépôts.
Avec un grand clivage entre les projets qu'on ne voyait pas depuis Paris, c'était le point de vue du président de la République Giscard d'Estaing, qui ne voulait pas qu'on puisse apercevoir de Paris, des Champs-Élysées par exemple, quelque chose entre les jambes de l'Arc de Triomphe de l'Étoile, et d'autres un peu plus audacieux, parmi lesquels je me range, qui disaient « il faut qu'il existe un jalon important sur l'axe historique sans s'embarrasser de la hauteur ».
Et donc là, il y a eu des quantités de concours d'architecture, c'est l'époque qu'on a appelée postmoderne, donc les architectes faisaient des colonnades, des machins, des facsimilés du Louvre, des dispositifs embrassant le vide, enfin c'était absolument comique, à vrai dire, du point de vue de l'histoire des styles. Et puis finalement, Giscard a choisi un projet qui était d'un architecte assez célèbre, assez âgé déjà à l'époque, qui s'appelait Villerval. Il a choisi un projet tout à fait étrange, un projet qui devait ne pas se voir depuis les Champs-Élysées ou les Tuileries. Donc très bas, qui fait suscite une ironie absolument générale dans le monde de l'architecture, faut bien dire.
Ça faisait pour la tête Défense, pour ce grand quartier, une petite tête assez minable. C'était un simple immeuble de bureau sans aucune prétention architecturale. Et effectivement, j'ai pris la plume dans une tribune dans le journal Le Monde et cet article s'est appelé « Ça me suffit ». À la Défense, en disant comment peut-on avoir aussi peu d'ambition? Nous sommes bientôt au 200e anniversaire de la Révolution française. Au premier centenaire, on a construit, vous savez quoi? La Tour Eiffel. Ce n'est pas rien. Et là, on a peur d'avoir un bâtiment qui soit visible de Paris sur ce lieu important qu'est aujourd'hui le quartier de la Défense. Donc j'ai très fortement critiqué ce manque d'ambition.
À chaque changement de président de la République, il y a changement du projet. Ça, c'est la France, et Sprengelsen en sera stupéfait comme en sont stupéfaits tous les étrangers. Quand le gouvernement change en France, il commence par jeter à la corbeille un certain nombre de projets en cours, simplement au motif qu'ils ont été décidés par son prédécesseur. Ce qui est vraiment stupéfiant à l'étranger, mais ce qui en France n'offusque personne. Et lorsque François Mitterrand est élu, eh bien, il ne déroge pas la règle, il dit le projet Villerval à la poubelle.
Longtemps avant les élections de 1981, nous évoquions avec François Mitterrand les sujets
Jack Lang,
à l'art, à la culture, à l'architecture.
Ancien ministre de la Culture.
Je ne suis pas né à la culture, lui non plus, le 10 mai 81. Voilà, et lorsqu'il est devenu président de la République et qu'il m'a nommé ministre de la Culture, il m'a simplement dit, proposez-moi des projets culturel qui, à Paris et en province, pourrait marquer ma présidence. Alors, je ne demandais pas mieux. Et évidemment, je l'ai enseveli, si j'ose dire, jour après jour, de projets innombrables. Alors, s'agissant de l'Arc de la Défense, à l'époque, on l'appelait la tête Défense. Je dis alors, à ce moment-là, à François Mitterrand, voilà une occasion d'accomplir un grand geste.
Quelqu'un a mis sous les yeux de François Mitterrand, je dirais quelques jours après son élection, au mois de mai ou juin 81, mon papier, il m'a appelé, j'étais donc effectivement à Matignon, et il m'a dit, est-ce qu'on peut arrêter ce projet? Je lui ai dit oui, il suffit de prévenir l'architecte. Bien sûr, 6 mois après, le projet n'était pas démarré, il m'a dit, voulez-vous s'il vous plaît prévenir l'architecte que son projet est remis en question, ce que j'ai fait, et on a rebattu les cartes, on a fait un concours international.
Mais c'est pas seulement l'histoire de ce site, c'est évidemment aussi l'histoire des grands travaux. Et de Mitterrand, donc, et en même temps, vous dites les grands travaux de Mitterrand, mais c'était pas les concours de Mitterrand. Mitterrand, il avait pas très envie de faire des concours. Mitterrand, il voulait choisir les projets. Donc, il y a toujours cette ambiguïté ou cette ambivalence plutôt de Mitterrand vis-à-vis de cette façon de faire un choix, parce qu'en même temps, eh bien, il y a cet idéal démocratique du concours, tout le monde peut participer et que le meilleur gagne. Et en même temps, Mitterrand, il a des idées sur la ville et sur l'architecture, et donc il veut garder le choix pour lui.
Mais si tout le monde a fini par se mettre d'accord sur le fait qu'il faut un grand monument à la Défense, personne ne s'est vraiment soucié de savoir ce qu'on allait y mettre.
Quand on construit quelque chose, de deux choses l'une, ou bien on construit un bâtiment qui a une fonction, en architecture on appelle ça un programme, ou bien on construit un monument purement monumental ou décoratif comme l'Arc de Triomphe. Et finalement, je vais directement à la conclusion, ça aurait été plus simple ici de décider de construire un monument purement ornemental. Mais ça n'est pas ce qu'on a décidé. En fait, le cahier des charges du concours, le concours postulait qu'on allait construire à la Tête Défense un centre international de la communication.
Qu'est-ce qu'on va y faire dans ce centre de la communication ?
Eh bien, beaucoup de choses à des heures différentes d'ailleurs. Je crois que ça c'est très important, ça donnera le plein emploi des matériels. On y fera un petit peu de recherche, on y fera de la formation, on y fera surtout de la création. Nous espérons y voir, si vous voulez, la chaîne satellite quand elle sera créée et un certain nombre d'organismes de coopération avec l'étranger, de coproduction avec le tiers-monde en particulier. Et puis le soir et au moment de la journée où les gens peuvent venir, on espère que le grand public viendra toucher au matériel nouveau, voir les pratiques, voir les événements à chaud. Vous savez, c'est un spectacle, les communications.
C'est une espèce d'idée comme ça, disons de gauche, comme qui est entre les nouvelles technologies qui ne sont pas encore apparues, qu'on connaît maintenant mais qui n'existaient quasiment pas, et une idée de participation générale, de carrefour du monde, des peuples, des populations, etc. Donc tout ce projet qui est animé par Serge Antoine, qui était un haut fonctionnaire très très au fait de l'innovation, est un projet qui n'existe quasiment pas. Donc en gros, il s'agit de construire un monument sans savoir ce qu'on va mettre dedans.
En mars 1983, le jury s'enferme 8 jours entiers en haut de l'austère tour Fiat, un monolithe noir qui domine toute la Défense. Du dernier étage, le jury surplombe le site infiniment compliqué du concours. On y voit superposer une voie ferrée, une rocade autoroutière, une ligne de métro et une ligne de RER. Un écheveau sur lequel 424 candidats ont planché pour en faire surgir quelque chose.
Bon, on a travaillé, on a passé peut-être 10 minutes sur chacun des 400 projets. On a travaillé beaucoup. Cette année-là, j'ai pas été au sport d'hiver. Et ce jury, composé de gens tout à fait formidables, comme Richard Meyer des États-Unis, Richard Rogers, qui a construit le centre Pompidou de Grande-Bretagne, des architectes japonais, brésiliens. Et on a finalement choisi les 4 qu'on proposait à François Mitterrand.
Louise Lehmann, on a sous les yeux les 4 finalistes du concours de 82. Ce qui est extrêmement frappant, d'abord, c'est qu'il y en a 3 qui sont dessinés dans le même axe. Hein, c'est la même vue aérienne. Et un seul paraît quasiment crayonné et il est en contre-plongée. C'est celui de Spreckelsen, c'est celui de la Grande Arche.
Ce qui est très juste, c'est qu'il y a une différence de qualité du dessin. Avec notamment l'autre projet lauréat, le projet numéro 210, le projet de Viguier-Jaudry, qui est extrêmement maîtrisé. Et donc on sent que derrière, il y a une équipe très professionnelle, très solide. Et ça, le jury, pendant les discussions, pendant les débats, le voit très bien. À l'inverse, le projet de Spreckelsen est un dessin qui semble, il a été qualifié notamment de poétique. Les membres du jury se doutaient qu'ils avaient face à eux, pas vraiment face à eux, un architecte qui avait beaucoup moins d'expérience que d'autres qui se présentaient à ce concours.
Le président de la République a hésité pendant plusieurs semaines. Il avait les 4 projets sous forme de leur panneau dans un salon. Il emmenait quelquefois ses visiteurs pour leur demander un avis. Et moi, j'étais assez souvent présent en tant que président du jury, un peu conseiller du président de la République sur ces questions. Et c'est vrai que je lui ai fait valoir cette présence sur l'axe sans fermer. Et il a finalement accepté. Il a choisi. C'est lui qui a choisi, bien sûr.
Il y a une unanimité autour du projet de Spreckelsen. Quel est, à votre avis, le coup de génie? Qu'est-ce qui, d'emblée, sur ce qui était des esquisses, fait que ce bâtiment est exceptionnel?
Je crois que ce n'est pas seulement un coup de génie, je crois que c'est l'œuvre d'un génie. C'est une vision parfaitement adaptée à l'endroit. À mon avis, c'est plutôt un génie d'urbanisme qu'un génie architectural. Enfin, j'aime beaucoup l'architecture de l'arche, la forme, je la trouve très réussie. Mais ce que j'admire encore plus, c'est l'insertion de cet objet architectural dans l'environnement, à l'endroit où il est. C'est difficile maintenant d'imaginer autre chose que cette arche. Et ça, c'est bien le signe qu'elle va parfaitement bien là où elle est. Vous voyez, ce grand portique ouvert, mais pas seulement cette forme, les proportions, la situation, la position, vous savez qu'elle est légèrement décalée. Enfin, tout ceci qui semble maintenant évident parce que c'est là, eh bien, il faut l'imaginer à l'époque où ça n'était pas là. Il faut l'imaginer dans le cerveau de Spreckelsen. Et c'est une vision, à mon avis, géniale en termes urbanistiques et en termes architecturaux.
C'était une bénédiction mitigée, ce concours. La défense reflète la réalité, la lutte de tous contre tous. Il y a des multinationales, des banques et des assurances, quasiment pas de logement. Et chacun doit montrer qu'il est plus puissant que les autres. Alors il y a du bon et du moins bon. Certaines choses sont faites avec beaucoup d'élégance, d'autres moins. C'est un grand mélange. C'est à la fois fascinant et affreux. Vous avez cette étrange impression, à la fois il y a tout ce pouvoir qui est captivant, mais quand vous le regardez comme un architecte, vous vous demandez, est-ce que c'est obligé de ressembler à ça? Mais voilà, c'est la réalité et je me suis dit que je devais l'accepter. Et donc c'était important que j'appartienne à la même famille que les autres buildings. Il y a la grande tour Fiat, toute noire, construite par Skidmore aux Wings et Merrill. Il y a un centre commercial, il y a toutes ces tours, et même une tour assez ancienne de Jean Prouvé, à l'entrée de la Défense. Je ne voulais pas être à part parce que je savais que je ferais partie de ça. Mais je voulais quand même garder une certaine individualité. J'ai donc choisi cette même architecture, un peu froide, avec les façades de verre lisse, du marbre et de l'acier. Mais pour des raisons d'appui dans le sol, j'ai été obligé de désaxer très légèrement mon bâtiment, de 6,5 degrés par rapport à la perspective. Du coup, mon cube est légèrement désaxé, alors que tous les autres buildings sont bien alignés. Et ça, les Français ont trouvé ça merveilleux.
Alors, chose assez cocasse, c'est vous qui ouvrez l'enveloppe pour connaître le nom de l'architecte, hein, ce concours est anonyme. Et là, que se passe-t-il?
Il se passe qu'on découvre le nom d'un architecte que personne ne connaissait, Otto von Spreckelsen, danois, Danemark. Et on n'en a jamais entendu parler. Il y a les coordonnées, et on téléphone, je téléphone, ça se passe en anglais. Et je tombe sur son fils qui n'était pas au courant du fait que son père avait postulé pour ce concours. Et il me dit, mon père est sur une île, il est parti à la pêche, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, nous sommes en 1983. Et comment joindre le père? Je lui dis, c'est très important, c'est le président de la République française qui veut lui parler. Alors le fils me dit, ah, c'est une bonne blague, et il raccroche. On a dû faire envoyer quelqu'un de l'ambassade de France pour rétablir le contact et finalement mettre la main sur l'architecte dans son île.
Et finalement, le projet qui est arrivé en tête était celui d'un inconnu. Monsieur Spreckelsen, un architecte danois. Le jury avait été impressionné par la simplicité, la rigueur de son dessin. J'ajoute que non seulement M. Sprengel était un inconnu, mais il avait très peu construit dans son pays. Je me suis rendu au Danemark pour apprécier sur place ses œuvres. Elles étaient relativement modestes. C'était, je me souviens, surtout d'une église charmante, jolie, mais ce n'était pas une bâtisse d'ampleur. Donc il y avait un pari confié un acte aussi important à un architecte inconnu qui avait lui-même peu construit.
En ce printemps 1983, Johann von Spreckelsen, professeur d'architecture revenu de son week-end à la pêche, fait le voyage en train depuis Copenhague pour Paris. 18 heures pendant lesquelles il revoit son projet et se prépare à rencontrer le président de la République française. Il est sans doute groggy, grisé par cette gloire si soudaine, alors qu'il traverse les paysages plats à fleur d'eau qui le conduisent vers la France et vers un chantier dont certains disent qu'il a eu finalement sa peau.
J'étais très heureux et surpris, bien sûr. C'est bien de gagner le premier prix. Nous nous sommes précipités à Paris et bien sûr, l'endroit était complètement différent. C'était le printemps, le soleil brillait et il y avait beaucoup de gens. Ça n'avait jamais été aussi beau. Tout s'est passé très vite. Il y a eu une grande conférence de presse avec 150 journalistes qui étaient là à attendre. Par courtoisie, le jury a laissé les autres lauréats parler en premier. D'abord, les lauréats du troisième prix. C'étaient des Canadiens. Et ils ont présenté leur projet. Puis ils ont dit qu'ils avaient aussi construit des écoles, des milliers d'appartements, des usines et des immeubles de bureaux partout dans le monde. Je me suis dit que ça avait l'air très intéressant. Puis sont arrivés les autres lauréats qui, eux aussi, avaient construit des tas de choses, des maisons et des quartiers entiers. Ils avaient réhabilité des bâtiments, construit des usines, participé à des grands projets de développement, etc. Et finalement, ça a été mon tour et j'ai dit, comme ça, de but en blanc, que je pensais que le cube était tout simplement la meilleure chose à faire ici. Et tout le monde a applaudi. Les Français, ils n'ont pas besoin de raison. Vous leur dites simplement que c'est un cube dont ils ont besoin. Ils vous applaudissent. Mais ensuite, quelque chose de terrible s'est passé. L'un d'eux m'a demandé « Qu'avez-vous fait d'autre comme architecte ?» Et j'ai répondu la vérité, que j'avais construit 4 églises et ma maison. Et là, ils ont applaudi. Ils étaient absolument ravis. Je n'ai pas du tout compris pourquoi ils applaudissaient. Et puis le soir, à l'ambassade, on m'a expliqué que les Français avaient cru que j'avais été modeste, que je n'avais rien dit à propos de toutes les maisons, toutes ces écoles, enfin tout ce que j'avais fait entre ces 4 églises et ma maison, que c'était trop long, que j'étais un grand architecte qui ne prenait pas la peine de mentionner toute son œuvre. Quand ils ont compris que c'était la vérité, eh bien ils ont continué à penser que c'était vraiment intéressant et drôle que je n'en ai pas construit davantage.
C'était L'Arche de la Défense, épisode 1, La Gloire. Avec Laurence Cossé, François Chalin, Robert Lyon, Louise Laine, Jack Lang et Johann Otto von Spreckelsen, tiré du film de Dan Tchernia, Homage to Humanity. Voix Renaud Bertin. Merci à Jean-Marc Lefebvre, prise de son Yann Fressy. Mixage Stéphane Desmonts. Coordination Christine Bernard, épaulée par Juliette Testa. Un documentaire de Camille Jusa et Lionel Quentin.
La suite du documentaire sur l'histoire de la Grande Arche, ce sera demain à 13h30. Pour le moment à 14h, c'est Antoine Guillot et votre séance cinéma que nous retrouvons.